Donc, vous pouvez aller sur iana.org, protocole, /protocole, et vous pourrez voir le lien avec les registres de protocole, et vous verrez la liste de tous les registres. Par exemple, l'étude de médias, numéro de port, et tout ce que nous utilisons pour bien faire fonctionner l'Internet. Nous avons des petits problèmes de Wi-Fi, de connexion, donc nous avons perdu notre connexion réseau. D'où cela provient-il? Nous avons beaucoup de registres que nous maintenons et dont nous nous occupons. Ça provient de la communauté IETF avec des membres qui sont des membres bénévoles qui créent des documents pour l'Internet, qui décrivent différents protocoles, applications. Et lorsque ces documents sont approuvés, il y a un processus IETF. Ils sont approuvés par le leadership de l'IETF. Voilà, ça revient. Voilà. Donc, vous avez tout sous contrôle maintenant? Très bien. Eh bien, lorsque ces documents sont approuvés par le leadership de l'IETF, ils deviennent des RFC, des requêtes pour commentaires RFC. Ça a été l'œuvre de Steve Crocker, ça existe depuis pas mal de temps. Je crois qu'il y en a des milliers maintenant, milliers de ces RFC. Donc, si vous voulez obtenir plus d'informations, vous pouvez aller à rfcediteur.org et vous pouvez apprendre beaucoup à ce sujet. Donc, ces RFC donnent beaucoup d'informations sur ce qu'on a besoin d'effectuer, des instructions sur la création de registre unique pour les paramètres de protocole, comment une personne ou une entreprise va avoir un nouveau code pour ce registre, quelles sont les politiques d'inscription, est-ce que nous pouvons rajouter un nouveau nombre, nous avons des experts techniques qui se penchent sur toutes ces questions, est-ce que nous pouvons rédiger un document avec des paramètres pour ces registres. Toutes ces instructions sont dans ces documents pour que le département de l'IANA suive cela. Donc, nous allons passer au prochain transparent. Donc, quel est notre rôle? Eh bien, avant que le RFC soit approuvé pour publication, nous faisons beaucoup d'analyses de ces documents pour nous assurer que les termes sont très clairs. Pour créer des registres, pour gérer les registres qui existent. Et donc, ces documents qui sont rédigés doivent être mis en œuvre. On pourrait nous dire, par exemple, quelles sont les procédures d'inscription pour les petits registres. Parfois, nous avons des questions de ce type qui se posent. Donc, nous faisons beaucoup d'analyses avant que les documents soient approuvés. Une fois que le document est approuvé, le département IANA met en œuvre ces points. Et ce que nous faisons, c'est de créer des registres. Nous utilisons les valeurs qui ont été demandées et nous prenons en compte toutes les informations de la communauté Internet, d'où provient le registre. Nous prenons en compte donc ces valeurs. Et voilà comment cela fonctionne. Nous devons assurer la maintenance également de cela. Il y a beaucoup de registres qui sont très actifs et il y a beaucoup, beaucoup de registres qui n'ont pas beaucoup d'activité. On continue à assurer leur maintenance. Néanmoins, transparent suivant. Donc ça, c'est un exemple d'une considération IANA. Et vous pouvez voir que ce qui est surligné en jaune sur l'écran, créer des registres, assurer sa maintenance et comment les inscriptions à venir seront reçues. Donc, dans ce cas, il y a une politique, c'est premier reçu, premier servi. Vous soumettez une requête et sur la base des premières reçues, eh bien, nous indiquons votre nom et sans analyse technique de nécessaire, cela peut aller très rapidement. Donc, ce sont toutes les politiques, si vous voulez, de l'IETF qui sont définies dans ce RFC. Donc, vous pouvez avoir tout cela, c'est tout à fait disponible. Et vous pouvez prendre en compte ce document. Il y a beaucoup d'informations intéressantes sur la manière dont nous analysons les documents et sur la manière dont nous travaillons avec la communauté IETF. Et il n'y a pas précisément d'affectation ou d'allocation pour ce registre. Ça, c'est ce qui est indiqué sur ce document. C'est l'exemple que je vous donne. Donc, une nouvelle fois, nous travaillons étroitement avec la communauté IETF. Nous nous assurons que les instructions soient claires et si vous avez déjà observé ces documents, regardez des considérations. Yana, vous avez beaucoup d'exemples qui nous sont donnés. Donc, transparent suivant. Merci. Alors, après l'approbation, nous créons ces registres et nous les mettons à jour. Nous assurons la maintenance. L'IETF produit de plus en plus de documents, vous le savez peut-être. Et nous devons faire beaucoup de mises à jour. Nous devons faire ce travail qui est absolument nécessaire. Donc c'est beaucoup de travail d'analyse, beaucoup de travail administratif, un peu difficile parfois. Mais ça, c'est notre première page. Yana, donc vous avez 2800 registres dont nous assurons la maintenance. Cela représente beaucoup, beaucoup de registres. Et vous pouvez voir ici même, par ordre alphabétique, nous avons les différents types de protocoles. Donc, regardez ces informations. Transparent suivant. Donc, à quoi ça ressemble au quotidien, notre travail, hein, d'une manière un petit peu plus précise et pragmatique? Eh bien, nous envoyons des courriels à yana.org et nous avons des formulaires, des pages de formulaires sur notre site web, différents formulaires pour les différents types d'inscriptions. Et donc, une personne remplit ce formulaire et ce que nous faisons, c'est regarder les politiques pour ce registre, les politiques qui rentrent en compte. Et nous définissons donc le RFC, nous contrôlons que nous ayons les bonnes informations. Et ensuite, nous avons un processus d'évaluation avec différentes étapes. Nous suivons ce processus, qui est un processus édicté par l'IETF. Il y a une procédure qui s'appelle revue experte, où le groupe, le comité directeur d'ingénierie Internet, composé d'experts, d'experts de l'Internet, d'experts techniques, nous donne leur avis. Nous consultons ces personnes, ces experts, ces ingénieurs informatiques. Et si à un moment ou un autre, nous avons des questions sur ce registre précis, eh bien, nous travaillons étroitement avec la communauté IETF et son leadership pour nous assurer que nous ayons toutes les informations pour gérer ces demandes. À la suite de l'évaluation, qui est assez rapide, eh bien, nous mettons à jour le registre en format XML et nous notifions à la personne qui avait fait la demande que le travail est effectué, tout est fait. Voilà un autre pour les médias, les types de médias à nouveau. Les types de médias, ça c'est souvent une demande qui est faite, qui est fréquente. Nous analysons la demande, nous avons un formulaire qui donne un cadre de référence précis et nous posons des questions. Il y a parfois des échanges de courriels et nous assurons que nous devons passer par nos experts, nous passons par nos experts techniques, ils reviennent vers nous, ils approuvent ou désapprouvent cette demande, demandent des informations supplémentaires, éventuellement, une fois que c'est approuvé, eh bien, on le met sur le registre, on confirme que tout est complet, et voilà, c'est fait. Nous avons changé le type de média. Le travail a été effectué. Alors, quel est le nombre de demandes que nous recevons par mois? Beaucoup, beaucoup de demandes par mois, comme vous le voyez sur ce graphique, sur les 12 derniers mois. Cela n'inclut pas les entreprises privées, parce que ça, c'est un autre programme statistique. Là, vous voyez beaucoup, beaucoup de demandes que nous gérons par mois. Numéro de port, analyse de documents, c'est assez large. Hein. Donc on travaille dur. Je dois dire qu'on travaille avec acharnement et que nous avons beaucoup à faire. Quelles sont nos cibles de performance? Nous travaillons de manière collaborative avec l'IETF pour assurer un supplément au protocole d'accord en existence entre l'ICANN et l'IETF. Depuis 2007, il y a eu un amendement au protocole d'accord, au SLA, au niveau de service, à l'accord sur ces niveaux de service, et ce SLA, donc combien de temps on doit passer sur chaque demande, et nous effectuons des rapports depuis 2007. Nous avons tous les rapports de disponibles en ligne depuis 2007. Cela représente notre travail. Donc, les SLA sont revus chaque année et cela dépend des projets que nous avons à gérer. Ils sont donc approuvés annuellement. Donc ça vous montre un petit peu sur ce diagramme. Depuis janvier 2014, le SLA MET, ça... C'est quelque chose où on répond aux attentes d'une manière cohérente depuis de nombreuses années. Donc c'est coché, tout cela. Et nous avons un objectif interne avec des indicateurs de performance clés. Nous répondons également à cela à 99%. Nous sommes au niveau par rapport à nos KPI, par rapport à nos indicateurs de performance clés. Donc nous le faisons, notre travail, en temps et en heure. Et je pense que nous faisons notre travail à un bon niveau. Et je crois que je vais maintenant passer le microphone à ma collègue avant que Michel passe le micro. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie consacrée au protocole de paramètres? Mais est-ce qu'il peut y avoir des conflits par moment, des conditions qui créent des conflits? Est-ce qu'il y a un processus de médiation et de remédiation? Merci. Vous voulez dire des conflits de quel ordre? Au sujet des registres de paramètres. Oui. Bon, s'il y a un problème avec l'inscription d'un paramètre ou des paramètres de protocole, nous travaillons avec le leadership de l'IETF pour régler le problème. En général, sur la base des premiers dossiers de reçus, les premiers dossiers arrivent, ils sont envoyés. Et c'est là où on voit s'il y a des problèmes. S'il y a effectivement des problèmes que l'on note, on demande conseil au leadership de l'IETF, parce que ce sont eux qui ont édicté les lignes de conduite. Hein. Donc, si une personne n'est pas d'accord avec les experts techniques dont on vous parlait tout à l'heure, eh bien, nous travaillons avec la communauté IETF, avec le leadership de l'IETF pour dire... la personne qui a déposé cette demande n'est pas d'accord avec nos experts techniques et... cela se règle et se gère toujours de cette manière. Je n'ai jamais vu de véritable gros problème en 14 ans. Il n'y a vraiment eu aucun conflit de ce type très grave. Donc, vous avez parlé du leadership de l'IETF. Nous avons ces personnes qui sont ici. Russ Housley est ici et Yann Yarko est donc également responsable. Donc, si vous avez des questions précises sur l'IETF, eh bien, n'hésitez pas à les poser à ces personnes que vous pouvez... rencontrer également. Donc, nous allons maintenant parler des ressources concernant les nombres. Je m'appelle Ella Saras et je suis avec l'ICANN depuis 9 ans, presque 10 ans. Et aujourd'hui, je vais travailler et parler de ces ressources pour les nombres. Je travaille avec une équipe de 4 personnes qui sont ici aujourd'hui, présentes dans la salle, et nous gérons les demandes qui arrivent pour les paramètres de protocole, comme l'a dit Michel. C'est Naëlla Saras au micro, toujours. Et nous faisons également les demandes pour les noms de domaine. Nous les gérons également. Donc, voilà. Ça, c'est pour vous montrer un petit peu où et en quoi consiste notre travail. Nous travaillons principalement à 3 types d'affectations, adresses IPv4, IPv6 et numéro et numérotation AS. Transparent suivant. Donc, pour vous expliquer un petit peu plus ce que nous faisons, et avant cela, il est important d'expliquer que notre travail est très déterministe. Nous faisons une affectation des adresses IPv4, pas sur demande, mais avec un calendrier. En ce qui concerne les IPv6 et les numéros AS, ça, c'est sur demande, après réception d'une demande justifiée. Toutes les données qui justifient une requête ont déjà été publiées et les décisions ont déjà été prises. C'est possible parce que les RAR publie des données et l'ICANN prend ces données et les compile et publie celles-ci sur un site web qui s'appelle stat.research.org et on peut avoir accès à tout cela par rapport à ROR, par rapport aux demandes RAR, par rapport aux demandes qui ont été déposées. Donc, ces rapports RIR, donc le staff les valide et ensuite gère ces demandes. Donc, les types d'affectation, maintenant, c'est assez scientifique. C'est assez scientifique. Donc, nous avons différents types d'allocations ici. Premièrement, ça, c'est les normes ISO, c'est les procédures IETF qui rentrent en ligne de compte. On a déjà parlé un petit peu de ces procédures d'affectation IETF. Michel en a parlé. Donc, nous avons la formule plus la requête, plus la demande pour les allocations IPv6 et ASN. Et nous avons, pour l'IPv6, donc, là, c'est sur demande. Et pour l'IPv4, c'est par rapport à un calendrier. Donc, c'est formule plus calendrier. C'est pour ça que ces formules mathématiques, un petit peu, que nous allons vous montrer d'ailleurs à l'écran maintenant. Et nous allons vous montrer ce que nous faisons pour une adresse IPv6, par exemple. Alors, revenez un petit peu en arrière, s'il vous plaît, pour qu'on voit bien la formule mathématique. Voilà, très bien. Alors, lorsqu'on a une demande pour une allocation IPv6, on vous donne ici un exemple pour un IPv6, une adresse IPv6. Pour les numéros AS, c'est à peu près la même chose. Nous avons la formule, nous avons des calculs, évidemment, qui sont différents. Les chiffres sont différents, la formule est différente. Mais il y a toujours une formule, et c'est comme cela que cela fonctionne. Donc, notre rôle, en tant que membre du personnel, c'est de conformer que ça vient d'un RIR, d'abord, et que ils sont compétents pour déposer cette demande. Et vous avez les deux méthodes par lesquelles ils peuvent être qualifiés. Et nous avons les données qui sont déjà postées sur ce site web stats.research dont je vous parlais tout à l'heure. Une fois que nous déterminons qu'ils répondent aux premiers critères, donc ça vient derrière, c'est possible d'accéder à cette requête. Et nous avons cette formule que vous voyez sur la droite qui nous indique quelle doit être l'affectation, l'allocation par rapport à l'usage et ainsi de suite. Donc, véritablement, il n'y a pas trait à interprétation. Notre travail et déterminer, avec une formule mathématique, ces affectations. Donc, on fait à peu près la même chose avec des numéros AS, mais les formules sont différentes, comme je le disais tout à l'heure. Transparence suivante, s'il vous plaît. J'ai mentionné plusieurs fois que nous consultons stats.research.org. C'est là où on trouve les données qui nous permettent de travailler, qui proviennent de ce site web. Ça, c'est un exemple pour IPv6, donc le vivier IPv6, avec une date de 2014. Ça, c'est un exemple précis sorti du site web. Et vous pouvez consulter cela, c'est tout à fait ouvert. Donc, ce que nous pouvons faire peut-être, c'est mettre à jour notre site web. On vous donnera ça comme ressource d'ici peu. Donc, nous avons reçu une demande. Nous vérifions que cela peut donner droit à une affectation. Et nous faisons l'affectation, l'allocation, et nous communiquons donc, nous mettons à jour le registre. Donc voilà à quoi ça ressemble, un petit peu techniquement, sur un écran. Ça, c'est une adresse IPv6 que vous voyez, une affectation, et ça, c'est la dernière affectation qui a été faite, cette allocation. Nous avons un format que nous avons un petit peu changé pour vous le présenter quand même. Ce n'est pas exactement comme cela nos écrans, mais ça ressemble à ça, un registre. C'est une structure de registre. Vous pouvez voir, vous avez une date, un statut, une désignation, un préfixe. Nous devons communiquer donc cette allocation ou attribution à un RIR et communiquer avec la communauté des opérations. Et donc, voilà à peu près comment cela fonctionne pour nous, pour les adresses IPv6 et pour les numéros AS. Donc, ça, c'était la formule plus la requête, vérification, ainsi de suite. Maintenant, nous allons parler de la formule avec un calendrier. Parce que ça, c'est les dernières adresses IPv4 dont on parle, bien sûr. Nous le faisons sur la base d'un calendrier deux fois par an, le premier jour du mois de mars et du mois de septembre chaque année. La formule, c'est un outil logiciel. On pourra vous donner le lien informatique, le lien hypertexte. Nous avons des informations sur les attributions et nous effectuons ces allocations. Donc, vous pouvez tout à fait télécharger cela et faire des essais et voir ce que ça va donner au 1er mars et au 1er septembre. On ne juge de rien. C'est prédéterminé. Et donc, comme on l'avait fait pour les adresses IPv6, nous allons faire les affectations sur les dates précises, choisies, et nous publions les résultats, nous les communiquons au RIR et à la communauté opérationnelle.
Voilà, donc c'est pour ce type de demande. Hein? Bien. En termes maintenant de quantité, contrairement à cette diapo, hein, et nous prenons notre temps, et c'est un volume très bas dans notre travail. Jusqu'à maintenant, nous avons eu seulement une poignée de demandes, et je ne pense pas que nous en ayons beaucoup plus cette année. Peut-être que ça augmentera. Pour le moment, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc nos attributions par an. Et maintenant, nous allons parler de standards de performance. Nous avons nous avons consulté la communauté en 2012 pour voir quels étaient donc les standards de performance et pour établir nos KPI. Depuis le début de ce contrôle de données avec ces KPI, nous avons atteint notre cible. Hein. Et en ce qui concerne les KPI, nous sommes en accord avec ces objectifs fixés. Et nous avons sur le site IANA, nous avons un point consacré à nos KPI. Et comment est-ce que nous avons donc atteint ces KPI au niveau des demandes spécifiques que nous avons traitées? Je crois que c'est Michel qui va vous parler de cette partie de la présentation. Voilà, donc c'est ce que nous faisons pour les cibles de performance. Nous faisons un suivi et voilà, je crois que c'était ce que je voulais vous et donc présenter aujourd'hui. Merci Naëlla. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Naëlla concernant le domaine des numéros, des chiffres? Bien, je voudrais vous dire aussi que Naëlla a dit que nous avons des volumes très bas et il faut comprendre qu'on a un bloc qui est très important. Donc, on a fait une attribution d'IPv6 et pour le moment, ce n'est pas épuisé. Hein. Personne n'est venu nous voir pour en avoir davantage. Hein. Donc, c'est quelque chose qui correspond au système autonome de nombre. J'ai une question. Qu'est-ce qui pourrait être possible, hein, est-ce qu'il serait possible d'expliquer certains acronymes, s'il vous plaît? Eh bien, alors s'il y a des acronymes dont vous voulez la définition, AS, système autonome, IPv6, adresse IPv6, c'est bon, ok. Donc, on passe au premier point. Peut-être que vous pourriez expliquer comment on a structuré notre présentation. Bien. Alors, Mary, je suis Mary Duma, je suis du Nigeria et je voulais savoir s'il y a un template, un format de template, hein, où est-ce qu'il faut remplir ou est-ce qu'on envoie un email pour recevoir un blog. Je vais demander à ma collègue Léa de répondre à cette question, à mon collègue Léon, pardon. Eh bien, alors, pour le RIR... Et ils peuvent remplir un document qui est publié sur le site de IANA.org et ils peuvent nous l'envoyer. Et de façon à s'assurer qu'ils fournissent les informations requises. S'ils envoient une vidéo, cela va aussi donner les informations et nécessaires. Ça peut être possible, mais ça risque de prendre un peu plus de temps. Merci Léo pour cette réponse. Et c'est très utile. Ça aurait été utile qu'on le voit dans votre présentation. Nous n'avons pas voulu nous risquer. Et donc, nous avons quelques questions à poser en ce qui concerne donc ce formulaire, ce template. Ok, nous allons essayer de présenter un peu plus la prochaine fois et sur ce thème. Est-ce qu'il y a... Élise Gerich reprend la parole. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais donner la parole à Kim Davis qui va nous parler de zone racine et de fonction de nom. Merci, Alice. Je suis Kim Davis. Je suis le directeur des services techniques. Et au sein de IANA, la raison pour laquelle je parle de cela, c'est parce que je suis l'expert dans ce domaine, pour le nom de domaine. Bien. Alors, prochaine diapo, comme Naëlla l'a présenté tout à l'heure, la fonction IANA a des milliers de registres d'identificateurs uniques. Et lorsque l'on parle de nom de domaine et de ce que nous faisons au sein de l'IANA, on parle de la gestion de la délégation au sein de l'espace des noms de domaine. Il y a d'autres noms de domaine liés aux registres que nous maintenons au sein de IANA, par exemple les types d'enregistrement, les temps d'enregistrement de ressources, les en-têtes, les flags d'en-têtes. Et il y a donc une série d'autres choses. Mais lorsqu'il s'agit de l'espace du nom de domaine en lui-même, nous avons un rôle unique qui est la gestion de la racine de l'espace de nom de domaine. Donc, je pense que ce n'est pas nouveau pour vous. le système de nom de domaine est une hiérarchie. Chaque niveau du système de nom de domaine et à une autre partie pour le processus de délégation. En haut de l'espace du nom de domaine, on a la zone racine qui est responsable de l'autorité de l'enregistrement des TLD qui existent. Et au sein de l'ICANN, on parle de GTLD, on parle de CCTLD pour les codes géographiques. Tout cela, donc, sont les différents TLD qui existent, qui doivent tous être listés dans la zone racine pour qu'ils puissent devenir actifs. Et la gestion du contenu de la racine est donc le rôle de la fonction IANA que nous sommes en train de vous décrire. Donc, lorsque l'on parle de la gestion de la zone racine et de la gestion de cette liste de TLD, d'abord, il faut comprendre que l'on attend les demandes des gestionnaires de TLD, des compagnies qui gèrent les registres pour les CCTLD et les TLD. Le type d'événements qui ont lieu vont entraîner une réaction de notre part. Des fois, il s'agit d'un changement au niveau de la personne qui gère le TLD. D'autres fois, c'est une question de routine, un point de contact qui va être désigné pour un registre particulier qui a quitté la compagnie. Quelqu'un va le remplacer. Il faut savoir qui est le représentant au sein de cette organisation qui va s'occuper de cette base de données. Donc, ce sont des changements techniques. Si de nouveaux services entrent en ligne qui vont opérer ce TLD, ils doivent être listés sur la zone racine. Il y a aussi quelque chose qui est rare en cas de catastrophe naturelle, tremblement de terre ou autre. Ce que l'on voit souvent, c'est que l'on a un impact sur l'infrastructure dans un pays donné et cela empêche ce pays d'opérer. Ça peut faire qu'une série de services de nom de données vont être affectés ou ne vont plus être aptes. Et en cas de catastrophe de ce type, nous avons un dialogue direct avec le TLD de ce pays en particulier. Nous essayons de voir comment nous pouvons le remplacer et faire fonctionner donc le système malgré la panne. Alors, la base de données, qu'est-ce qu'il y a dans cette base de données ? Ce n'est pas une base de données très importante. Nous maintenons une série d'informations concernant les TLD. D'abord, nous maintenons l'identité des opérateurs reconnus de ce nom de domaine, le nom de cette organisation, le lieu ou l'adresse de cette organisation. Nous avons deux contacts pour chaque domaine. Et nous avons un contact technique, un contact donc d'une personne avec le nom, la fonction, l'adresse, le fax, l'email, etc. Tout ce qui est nécessaire pour pouvoir contacter ces gens. Nous maintenons la configuration technique pour ces TLD aussi, ce qui implique des points clés d'information, la liste des serveurs de nom pour ces TLD en particulier et l'enregistrement DNSSEC. Lorsque l'on signe un nom de domaine avec le DNSSEC, cela produit une chaîne de lettres et de noms et de nombres, ce qu'on appelle l'enregistrement DNSSEC qui va se retrouver dans la zone racine. Et cela est enregistré, cela est stocké. Ensuite, nous avons des métadonnées pour ce TLD. Ces métadonnées sont en général des informations que nous recevons de la communauté. Nous n'avons pas vraiment besoin de cela. Donc, cela inclut des choses comme quelle est l'adresse web du registre pour un TLD en particulier, quel est le serveur de WHOIS pour ce TLD en particulier, ce type de choses, quelle est la traduction de l'IDN en anglais. Voilà. Nous avons une série d'enregistrements et nous pensons que cela va être augmenté dans le futur, qu'il va y avoir une traduction de tout ce matériel, etc. Mais en général, ce sont des informations utiles à la communauté, mais qui ne sont pas obligatoires de la part du TLD. Si vous voyez un exemple, pour ne pas parler de choses hypothétiques, si je vous montre donc une base de données, .hamburg, vous voyez le nom légal. Vous voyez l'adresse, vous voyez les personnes qui vont être nos contacts, hein, deux personnes avec des séries de coordonnées les concernant. Donc ensuite, vous avez l'adresse, hein, www.dothamburg.de et l'adresse whois.nic.hamburg. Voilà, c'est tout. Cette information est publique. On peut aller sur le site de la IANA et trouver cette base de données. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site de WHOIS et pour donc trouver aussi cette information. Voilà, rien n'est secret. Ce sont des informations qui sont publiques. Bien. Nous avons, quand il y a une demande de changement, pour les raisons que nous avons déjà mentionnées, en général, nos clients vont travailler, vont fonctionner avec le système automatique. Nous avons développé un système que nous appelons RZMS, système de gestion de la zone racine, qui permet de travailler avec une inscription, un mot de passe. On peut faire une demande, on peut contrôler, vérifier l'état de la demande. C'est un système de self-service qui est très utile et qui fonctionne très bien. Prochaine diapo. Bien, donc une gestionnaire de TLD a certaines responsabilités. Notre travail est de regarder ces demandes, s'assurer que l'on a des prérequis techniques et politiques et confirmer qu'on est d'accord pour ce changement. Et si on a des problèmes pendant ce processus, pendant ce traitement, nous allons vérifier avec la personne qui demande pour voir si c'est un problème qui peut être réglé. Sinon, on va expliquer comment résoudre ce problème. Une fois qu'on est satisfait de toute cette résolution de problème, nous allons demander à l'NTIA d'autoriser donc la démarche. Quelques points que nous essayons d'améliorer. La partie technique, c'est un point clé. Nous ne voulons pas que l'on puisse rentrer dans la zone racine, quelque chose qui pourrait donc nuire à certains TLD ou abîmer un TLD ou affecter la fonction de la zone racine. Donc, il y a une série de prérequis techniques. Nous avons eu une consultation avec la communauté il y a quelque temps pour donc créer cette base. Voilà. Donc, cela veut dire une analyse de tout le fonctionnement des TLD. Lorsque on signe une zone avec le DNSSEC, on essaye de vérifier pour voir si on peut faire une validation du DNSSEC avec le DNSSEC. Le DNSSEC, vous l'avez vu, implique une chaîne de nombres et de numéros. Il faut être sûr et cela permet de tester et de valider tous les calculs qui sont donc concernés et être sûr que ces calculs sont corrects. Nous avons un système qui va envoyer des emails. Ces emails vont être envoyés pour avoir une vérification. Lorsqu'on a une base de données, il faut être sûr que cela marche, que l'adresse email est fonctionnelle, etc. Le prochain segment de cette révision est le consensus. En général, nous avons un processus qui implique contacter les personnes responsables du changement et leur demander si elles sont d'accord pour faire ces changements. On vérifie ces contacts. S'il y a un nouveau contact, on s'assure que ce contact accepte ces nouvelles responsabilités. Et les différents types de changements techniques que nous faisons, le serveur de nom a été modifié et cela a un impact sur le TLD. Donc, c'était très courant dans le passé. Certains serveurs individuels soutiennent 40, 50, 60 TLD en même temps. Donc, nous voulons nous assurer que s'il y a un changement de configuration dans le serveur, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Donc, on essaie d'avoir l'accord des gestionnaires de TLD pour donc ce type de choses. On fait une vérification de régulation pour s'assurer que la demande répond vraiment aux prérequis. Nous ne voulons pas avoir une base de données pleine d'enregistrements faux. Nous voulons avoir une base de données claire. Nous voulons que ces données soient écrites en alphabet latin pour que tout le monde puisse les lire. Il y a certaines personnes qui saisissent leurs données en majuscules. Donc, on essaye de s'assurer que c'est un système bien ordonné, bien clair, et on regarde toute la base de données pour voir si c'est clair. Finalement, et ensuite j'entrerai plus dans le détail, notre responsabilité de transfert. Lorsqu'il y a un changement important, et la personne qui opère le TLD il y a une série de prérequis qui vont entrer en jeu. Une fois que ces premières étapes sont faites, une fois que on a besoin donc des contacts de base, on a besoin de vérifications techniques, c'est tout ce qui est nécessaire. C'est un processus rapide et ces changements sont faits au quotidien, c'est très simple. Mais si, par contre, vous voulez transférer le TLD opérationnel d'une entité à l'autre, il faut faire un autre processus un peu plus compliqué. Donc, le processus de transfert de TLD, c'est ce qu'on appelle la redélégation, est un processus qui diffère s'il s'agit d'un GTLD ou d'un CCTLD. C'est une grande différence. Dans le contexte des GTLD, ce processus, c'est un processus qui dépend des politiques de la GNSO. Et au niveau opérationnel, ces politiques de la GNSO sont affectées par le contrat que l'opérateur de registre a signé avec l'ICANN. Et donc, au sein de l'IANA, ce que nous faisons, et nous essayons de nous assurer que lorsqu'il y a un transfert vers un nouvel opérateur de TLD ou de GTLD, la partie contractante est la partie qui a signé avec ICANN et qu'elle figure sur la base de données. Le point clé ici, c'est de s'assurer que cela est fait correctement. Cela a lieu à l'extérieur. Il y a tout un département de GTLD qui est à l'extérieur de l'IANA qui s'occupe de cela. Lorsque ce processus est réglé, lorsqu'il y a un nouveau contrat qui a été signé avec cette nouvelle partie, cela va être reflété sur la base de données. Si l'on regarde sur la droite de l'écran maintenant, les CCTLD, lorsqu'on a un transfert de CCTLD, nous n'avons pas de décision ici à prendre. Nous avons un processus de révision. Cette révision est basée sur le consensus, s'il existe un consensus au sein du pays pour faire ce transfert, nous avons une série de critères d'évaluation dans ce domaine. On essaye d'avoir des preuves pour savoir qu'il y a eu des consultations. Nous demandons des déclarations de différentes parties dans le pays, comme les gouvernements, le secteur privé, le secteur académique, etc. Et ce que nous cherchons, c'est d'être sûr qu'il y avait un processus réalisé dans le pays pour déterminer qui opérait ce CTLD et que ce changement de transfert a lieu de manière légale. Prochaine diapo. Une fois que nous avons fait tout ce processus, nous sommes sûrs que la requête à la demande a été faite. Nous transmettons notre recommandation à l'NTIA, le gouvernement américain qui est responsable du contrat qu'il y en a. Ils vont voir ce qu'on leur a envoyé et ils vont donc nous donner l'autorisation de poursuivre. En se basant sur cette autorisation, la mise en œuvre va avoir lieu. Cela inclut de nombreuses parties. La zone racine d'abord qui est maintenue par VeriSign. Donc l'autorisation de changement est une partie technique qui va être transmise à VeriSign. VeriSign va mettre en œuvre le changement en se basant sur l'autorisation reçue. Le point WHOIS, la base de données de point WHOIS, va inclure les changements. Et donc cette autorisation va nous permettre de mettre à jour ces enregistrements aussi, ces fichiers. Une fois que la mise à jour est faite, vous allez pouvoir le voir en ligne. De nouveau, ce dont nous avons parlé aujourd'hui, ce sont des informations publiques. Il n'y a pas de base de données secrète. Tout est en ligne. Bien, maintenant, je vais vous parler d'autre partie importante que nous gérons dans le contexte des noms de domaine, et c'est la signature de clés de racine avec l'introduction du DNSSEC pour la zone racine. Je ne veux pas rentrer dans un cours sur le DNSSEC, mais il est important de dire que un fichier de clés nous l'appelons une clé, mais c'est un fichier d'ordinateur qui va générer la signature qui va nous permettre de faire toutes les vérifications concernant le DNSSEC. La façon dont nous le faisons maintenant, nous allons suivre un processus pour faire donc une cérémonie de signature de clé qui est publique. Elle est prévue pour que la communauté ait confiance en nous et la façon dont ça fonctionne. Je vais vous expliquer comment ça marche maintenant. Donc, la gestion de cette signature de clé, c'est une petite boîte. Dans cette petite boîte, une petite boîte plus petite qu'un ordinateur portable, que l'on appelle un module de sécurité de matériel. C'est une boîte qui est conçue pour stocker un fichier de manière très sûre. Et c'est quelque chose de très intéressant. C'est un petit peu comme un disque dur. Lorsque vous essayez de l'ouvrir, la température va augmenter. Et donc, cela est fait vraiment pour que toute tentative de violer cette clé et d'obtenir les informations d'une manière non autorisée va donner lieu à une destruction. Donc, nous stockons ces clés de signature de clé dans un endroit. Chacune contient la même information. Si l'on essaye de violer ce système, il faut, pour pouvoir l'utiliser correctement, il faut utiliser une série de smart cards, de cartes donc intelligentes. Et à ce moment-là, cela va être activé. Donc, la façon dont nous configurons cela, nous avons 7 cartes intelligentes pour opérer cela, ou 7 cartes à puce. On a besoin de 3 cartes à puce qui sont présentes lors de cette cérémonie pour pouvoir donc ouvrir ce fichier. Et ça, c'est le point clé, le point essentiel pour que ce système soit sûr. La façon dont il a été créé, donc conçu, c'est que nous n'avons pas la capacité de mettre cela, de faire cela nous-mêmes. Nous avons 7 donc cartes à puce. Nous en donnons une à chaque différente communauté, de façon à utiliser une de ces HSM. Nous avons besoin que 3 des 7 membres de la communauté puissent venir à la cérémonie, être présente, fournir donc leur accès avec leur carte à puce, et cela va nous permettre de mettre en place le HSM et de faire donc la signature de clé. Alors, où est-ce que nous stockons ce HSM? D'abord, il est dans un coffre de sécurité, un coffre-fort. Nous avons 2 contrôleurs de la sécurité de ce coffre-fort. Ces personnes ne travaille que dans le domaine de l'ouverture de ce coffre-fort. Cette ouverture est donc contrôlée par des capteurs de sécurité. Voilà, ici, vous voyez, nous avons un coffre-fort multiple, dans une salle dans laquelle il y a plusieurs coffres-forts. Nous avons cela et qui est donc stocké dans une salle de sécurité pour laquelle il faut que 3 personnes puissent rentrer. On a l'administrateur de cérémonie, le témoin, et il y a un scanner, un senseur biométrique à la porte. Donc, on a besoin de ces 3 personnes, 2 personnes qui vont contrôler. On a besoin de 3 membres de la communauté au moins. On a besoin d'une personne qui a la combinaison du coffre et 2 autres personnes qui vont avoir accès tous ensemble à la salle. Cette salle est à l'intérieur d'une autre salle que l'on appelle la salle de cérémonie. Dans cette salle, nous faisons le travail concernant le HSM. Donc, nous le sortons du coffre-fort, nous le mettons dans la salle. Tout est filmé par des caméras. On a un web stream, on voit vraiment ce qui se passe dans cette salle. On a une série de témoins, de personnes qui assistent à cela, une 20aine de personnes en général. Et l'accès à cette salle est contrôlé par quelqu'un d'autre qui n'est pas présent. Donc, pour que toutes ces personnes puissent être présentes, quelqu'un d'autre est à l'extérieur, va s'occuper donc des alarmes, qui va donner la liste des noms de personnes qui vont participer à cette cérémonie, des gardes de sécurité, etc., de façon à ce qu'on ait une liste et qu'une personne soit responsable de contrôler cette liste des personnes qui vont pouvoir entrer dans cette salle. Donc, vous voyez que c'est un processus vraiment et qui donc permet d'accéder à ce fichier secret, mais qu'il comprend plusieurs, vraiment plusieurs étapes bien précises. Donc, nous avons deux locaux identiques. Un se trouve sur la côte ouest des États-Unis, une trentaine de kilomètres d'ici, au sud de Los Angeles. Et nous en avons un autre dans une ville de Virginie, sur la côte est des États-Unis, à Culpeper. Ces deux salles peuvent faire la même chose. Et elles sont prévues pour donc être protégées en cas de catastrophe. Et ce que nous faisons quatre cérémonies par an et nous alternons entre les deux côtes, côte est, côte ouest. Et comme je vous l'ai déjà dit, ces locaux sont contrôlés par une entité qui va contrôler donc tout ce qui se fait à l'intérieur de ces salles. Donc, je vous l'ai dit, on fait ça quatre fois par an. Là, nous avons les représentants de la communauté et qui vont venir. On va tous ensemble se connecter. On va mettre les cartes HSM. On va connecter cela à un ordinateur portable. Et ensuite, on va faire toute la cérémonie. Je vous ai dit, le processus est filmé, il est enregistré. Il y a une centaine de vidéos sur notre site Internet. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder les 90 dernières cérémonies que nous avons réalisées. Toutes ces vidéos sont publiques. Et ce que nous utilisons est tout notre système d'organisation est public. Hein, tout cela est transparent. Et cela est très important parce que nous voulons que ce processus inspire confiance à tout le monde. La façon dont la sécurité fonctionne, si cela est un compromis des données de sécurité privée, cela ne fonctionne pas. Hein. Donc, si on voit qu'il y a eu une violation d'un des mécanismes ou d'un des outils, à ce moment-là, le TCR dont je vous ai parlé, hein, et le représentant de la communauté donc qui fait l'objet de notre confiance. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut donc contrôler la situation pour s'assurer que tout est fait dans les règles et que si quelque chose n'est pas fait correctement, ce sera dit et ils iront voir les membres de la communauté et diront que telle ou telle chose n'a pas été faite correctement. Voilà, ici vous voyez les personnes qui ont assisté à la dernière cérémonie qui a été faite. Je vais vous donner un petit peu une vue d'ensemble de la façon dont cela est fait, mais si vous regardez un de ces documentaires, vous aurez davantage de précision. Hein. Les deux dernières cérémonies ont fait l'objet de deux documentaires, la première du Guardian, qui a donc produit une petite vidéo sur le site Internet. Et puis, la BBC a filmé un documentaire qui s'appelle Horizon, qui dure entre 5 et 10 minutes et qui vous donne vraiment une idée de la façon dont la cérémonie est conduite, si ça vous intéresse. Prochaine diapo. En accord avec mon collègue, je vais conclure cette section sur le nom de domaine avec un rapport sur nos performances. Nous fournissons beaucoup de rapports de performance. Ils sont sur notre site Internet. Hein, et voilà, ici, vous avez un petit résumé. C'est juste pour vous donner une idée de ce que nous faisons. Nous mesurons pratiquement tout. Nous faisons des rapports mensuels. Nous avons des SLA. Nous avons un accord de niveau de service pour voir si notre cible est en accord avec ce que la communauté attendait de nous et ce que nous savons lors des consultations de la communauté. Nous avons donc un grand nombre. Nous avons ici toutes les données concernant la mise à jour des bases de données. Vous voyez ici les KPIs et les MET. Je crois que Michel a présenté cela pour sa section. Mais ici, nous dépendons de la façon dont le personnel de Ayana fait son travail. Et en ce qui concerne le transfert, par exemple, dont je vous ai parlé, beaucoup de travail concernant le recueil de documents pour le transfert de CCTLD implique que on doit travailler avec le pays concerné. Donc, des fois, les temps, les délais ne sont pas vraiment, sont difficiles à prédire. Des fois, ce sont plusieurs mois. Des fois, c'est plus rapide. Donc, je pense que les pourcentages ici que vous voyez sont un peu liés à cela. Mais en général, ce sont des informations qui sont tout à fait vérifiable, et nous continuons donc à vérifier et à recueillir toutes ces données.
Bien voilà, c'était le dernier transparent, donc je vous remercie de votre attention. Y a-t-il des questions pour Kim pour cette partie de notre présentation? Très bien, donc oui, il y a des questions dans la salle. Oui, Sor Vedočić. Un point de clarification, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez repartir votre dernier transparent, s'il vous plaît? Oui, Amanda, vous allez nous donner un coup de main. Oui, vous avez parlé de ces 10 jours, de cette période de 10 jours. Donc, le NTIAE ne travaille qu'au niveau de la redélégation. Comment ça se passe? Eh bien, oui. À chaque fois qu'il y a un changement dans la base de données, nous y travaillons. Donc, pouvez-vous estimer votre participation, votre travail à ce niveau et le calendrier? Oui, je crois que c'est assez mineur. Nous sommes en mesure d'effectuer rapidement le travail. Ce n'est pas une partie importante de nos délais. Je n'ai pas exactement la moyenne, mais principalement, c'est la demande. À peu d'exceptions, l'ICANN et NTIA et Verizon, ça prend 2-3 jours au maximum pour gérer une requête. Et parfois, s'il y a un problème technique, une vérification technique au niveau de la configuration, ça peut prendre plusieurs jours. Mais c'est plutôt des temps d'attente qu'autre chose. Oui, Mathieu Scheldt, CDT. Oui, j'aimerais rebondir sur les questions qui étaient posées. Est-ce que vous recevez des questions du NTIA, des demandes d'informations, diverses requêtes, commentaires, et ainsi de suite? Vous avez semblé dire que lors de la redélégation, vous faisiez un jugement. Est-ce que vous pourriez expliquer ce jugement? En quoi consiste-t-il? Eh bien, NTIA, parfois, nous pose des questions, c'est exact. Moi, ça fait 9 ans que je suis à l'ICANN, et c'est rare, de plus en plus rare. Parce que je crois que le secteur est beaucoup plus mûr maintenant. Les CCTLD, les GTLD savent quoi fournir. Donc, c'est vraiment routinier, me semble-t-il. Il est très rare que nous ayons des demandes et des requêtes provenant de la NTIA, parce que je crois que nous sommes arrivés à un niveau de fonctionnement très élevé. Nous ne faisons pas de jugement. Nous nous assurons qu'il y a l'approbation pour le changement. Vous savez que nous travaillons sur des principes qui ont été définis dans un document écrit par John Postel il y a plus de 20 ans. Et la collectivité représente est au courant que nous sommes face à des défis, que nous devons relever des défis. Donc nous avons ce cadre d'interprétation. Nous allons avoir de nouvelles recommandations ratifiées pour donner des définitions objectives des principes. Donc, nous allons revoir la redélégation des CCTLD à la suite de ces recommandations et fournir un processus beaucoup plus objectif avec des listes de contrôle qui nous permettront de mieux travailler et limiter le jugement qui pourrait être obligé. Mais ce n'est pas un jugement binaire. Il y aura toujours un processus d'évolution, notre manière de travailler. Identifier les problèmes, les processus, faire en sorte que la communauté soit bien au courant. Oui, bonjour. Tom Foody, je parle en mon nom personnel et je suis désolé si vous avez déjà entendu cette question, mais nous avons du mal avec le son, un petit peu du mal à vous entendre. Donc, le DNSSEC, qu'en est-il ? Donc, nous avons une cérémonie donc tous les trois mois qui se déroule tous les trois mois. Et donc, quatre par an, il y en a eu 18 en tout. C'est pour chaque registre, chaque TLD. Oui, nous générons des signatures qui sont utilisées, qui ont une validité de quelques semaines selon ces signatures. Nous générons trois mois de signatures. Et VeriSign les utilise pour nous répondre en cas de demande. C'est très technique, hein. Mais à la base, c'est des fichiers que VeriSign peut utiliser. Ce n'est pas en rapport avec le TLD ou avec le contenu de la zone racine. Ça, c'est un autre processus. Ce sont des signatures qui proviennent de VeriSign. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Oui, je vous comprends. Mais vous avez de plus en plus de TLD, donc ça a un impact pour vous ? Non, cela ne nous a pas impacté du tout. C'est resté très plat, en fait. Merci beaucoup. Oui, je suis du Nigeria et je voudrais rebondir sur cette question des CCTLD, question de délégation et de mise à jour. Je vois ce transparent. Est-ce que on peut savoir combien de temps ça prend pour traiter les CCTLD et leur délégation, ainsi que leur mise à jour par rapport aux autres ou par rapport à ce qu'on a entendu auparavant? Donc, c'est des différents calendriers, c'était différents transparents que nous avons vus, oui. Est-ce que vous avez des SLA pour la redélégation en rapport avec les CCTLD? Oui, absolument. Donc, ça, c'était sur ce transparent, vraiment le résumé en une seule page de processus très détaillé. Donc, ce que vous me demandez, c'est que oui, c'est dans nos rapports de performance à iana.org/performance. Mais pour résumer un petit peu tout cela, comme on le voit sur ce transparent, là, vous avez le temps de gestion de la racine. Là, vous voyez, période de rapport, 19 changements, 12 changements au contact administratif, 34 délégations et redélégations. Et nous avons le nombre de jours sur la droite. Donc, ça, c'est pour les GTLD et les CCDLD tous ensemble. Mais on peut encore vous donner plus de détails sur tout cela. Et nous avons différents SLA pour les CCTLD, pour leur délégation, redélégation, et ainsi de suite. Donc, nous avons toutes ces informations de disponibles. Et si ces informations ne suffisent pas, contactez-nous, nous pouvons vous donner encore plus de détails et vous aider pour cela. D'autres questions ? Oui, monsieur. Oui, je m'appelle Ben Town et je parle en mon nom personnel. Et j'aimerais mieux comprendre le rôle du gouvernement, s'il est actif, ce gouvernement. Est-ce qu'ils approuvent simplement ou bien est-ce qu'ils rentrent un petit peu plus dans les détails? Est-ce que parfois ils désapprouvent certaines requêtes? Sur quoi basent-ils leurs décisions? J'aimerais mieux comprendre tout cela. Ce contrôle, cette supervision dont on parle, supervision du gouvernement, Donc, je ne veux pas parler en leur nom, je ne peux pas répondre en leur nom, vous le comprenez. Et je ne sais pas si Ashley veut répondre ou pas, mais c'est extrêmement rare. Il me semble que ces dernières années, on comprend beaucoup mieux ce qu'ils recherchent avec le processus des nouveaux GTLD. Nous avons eu un dialogue constant avec la NTIA, avec la délégation des premiers GTLD. On voulait comprendre leurs attentes, comment nous pouvions travailler ensemble. Nous avons des rapports maintenant qui répondent précisément aux demandes de l'NTIA pour l'autorisation des demandes de nouveaux GTLD. Et il y a des demandes et des rapports nombreux, des centaines d'entre eux qui sont sur notre site web. Ça, c'était sur les informations qui étaient nécessaires pour l'approbation d'un nouveau GTLD qui soit mis sur la zone racine. Donc, voilà dans quelle direction nous allons. Et je dirais que c'est très rare que la NTIA demande des clarifications. Je crois que le processus est très mûr et très bien au point. Ça fait 15 ans que l'ICANN travaille dans ce domaine. Je crois que on connaît toutes les modalités maintenant. Nous avons un processus que tout le monde comprend bien, la communauté également, pour la gestion directe des TLD. Hein. Et il me semble donc que c'est très rare qu'il y ait des problèmes. C'est un processus qui fonctionne. Oui, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Gal Fall. Je suis ici avec Afrinik de Maurice et ma question est en rapport avec les ressources des nombres. J'aimerais diriger ma question à Naëlla, peut-être. Je ne sais pas qui peut me répondre. Je vois que IPv4 est pratiquement terminé et nous sommes maintenant passés à une ressource plus abondante, IPv6. Comment la distribution des nombres et des chiffres va changer pour l'IANA? Oui, merci de cette question. Je vais tenter de vous répondre. Nous sommes simplement là pour traiter des demandes. Je ne suis pas bien sûr de comprendre la question. Il y a eu une politique d'affectation des ressources. Et donc, pour le moment, nous sommes avec les dernières lignes de conduite qui existent depuis 2006, avec des affectations de cette époque. Nous avons montré sur le site web, et sur le site web, vous pouvez trouver plus d'informations, qui a encore des ressources, quand ils pourront demander plus de ressources, si elles sont nécessaires. Donc, je ne suis pas sûr si j'ai bien répondu à votre question. Donc, vous voudriez peut-être poser la question d'une manière plus spécifique. Oui, spécifiquement. Telle est la question. Tel est le problème. Vous arrivez à un moment où les affectations IPv6 ont commencé en 2006. On est en 2014. Une fois qu'il n'y aura plus de IPv4, il n'y aura plus que cette ressource IPv6. Et donc, si vous allouez et attribuez des blocs d'adresses tous les 10 ans, je pense que, eh bien, je l'exprime simplement, c'est une ressource abondante, je le comprends bien, mais je me demande si cela va changer véritablement la partie chiffres et nombres de la fonction IANA. Si ça va apporter des modifications, cela, puisque vous n'allouez plus autant de blocs que vous le fassiez auparavant avec les ressources de la version 4 du protocole Internet. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est très clair. Et vous l'avez peut-être vu, c'est transparent. On a eu envoyé que 5 blocs, on a attribué que 5 blocs cette année. Il y a une formule automatique pour l'IPv4 pour des adresses qui étaient revenues. Maintenant, on n'a plus de blocs IPv4 à allouer. tout ce que nous avons dans notre vivier IPv4 est reparti au registre. Puis, c'est revenu à IANA et nous avons maintenant une politique mondiale des 5 registres internationaux. Nous avons une formule et au 1er septembre, au 1er mars, nous appliquons cette formule par rapport à notre vivier d'adresses. C'est tout ce que l'on fait maintenant pour IPv4. Hein. Donc, il n'y a pratiquement plus de personnes qui y travaillent. C'est automatique, c'est totalement automatisé. Maintenant, pour IPv6, ce sont des blocs de systèmes autonomes et de chiffrage autonome. Et je ne crois pas qu'on va avoir beaucoup de changements, en fait, même si on n'a rien dans notre vivier de domaine qui soit revenu. Et je crois que les organisations qui ont maintenant besoin d'un système autonome pour attribuer ces adresses. Donc, c'est là où sont ces numéros. Et Naëla a une équipe de 4 personnes. Et ces 4 spécialistes de l'IANA sont responsables de toutes les demandes de ce type d'identifiant unique, paramètres de protocole, changement à la zone racine et nombre. Donc je crois que cela va rester assez plat pour plusieurs années. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Je m'appelle... Ça marche, vous m'entendez? Oui, je m'appelle Valentina. Je suis de Roumanie. Je suis juriste. Alors, je ne suis pas du tout technique, mais j'ai relu un rapport ESSAC et il y a 11 fonctions de l'IANA. Mais le contrat NTIA n'a trait qu'à 4 fonctions. Donc, quelles sont ces fonctions qui ne sont pas dans le contrat? Oui. Oui, le document ESSAC est un document tout à fait excellent qui parle de tout ce que le département effectue et le département des fonctions IANA travaille pour des personnes qui ne sont pas à NTIA. Par exemple, pour l'IETF, nous gérons la base de données des zones et des fuseaux horaires. Donc ça, ça n'a pas trait au département, au contrat, pardon, que nous avons avec le département du commerce des États-Unis. Donc, l'ICANN a un contrat avec la NTIA et notre département est régi par cela. Et il y a en effet d'autres services. Nous avons, par exemple, la gestion de .int. On ne va pas en parler aujourd'hui parce que ce n'est pas une grande partie de notre travail. C'est pour ça qu'on n'a pas abordé cela aujourd'hui. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Nous apprécions beaucoup votre participation. Merci beaucoup de nous avoir posé ces questions. Nous avons eu un résumé de ces paramètres de protocole, de nom de domaine, de ressources en nombre. Nous allons maintenant passer au prochain transparent et... Qu'est-ce que cela représente en tant que travail? Ce que nous avons ici aujourd'hui, ce sont des bulles, comme vous le voyez sur votre écran. Si vous voyez au milieu, qu'est-ce que nous faisons pour les demandes en rapport avec les domaines, avec les nombres, avec les protocoles et les demandes d'ordre général? Vous voyez le nombre de demandes et vous voyez d'autres éléments des fonctions IANA. Donc, nous avons également... 2 audits de parties tierces pour le DNSSEC, pour la sécurité des et clés de signature, pour les systèmes IANA en général, avec PricewaterhouseCoopers, notre vérificateur de compte, notre cabinet d'audit. Nous publions donc les certificats que nous obtenons de l'audit du DNSSEC et nous avons un document interne également pour améliorer notre propre système, un document d'audit. Vous avez également les 4 cérémonies dont on a parlé en détail tout à l'heure. Vous avez entendu Kim, vous avez vu que c'est complexe, beaucoup de personnes travaillent à ces cérémonies qui se déroulent sur la côte Est et sur la côte Ouest. Nous avons des responsables de du chiffrage qui sont là, Andreas et Punky, et ils s'assurent de la bonne, le bon déroulement de ces cérémonies de signature des clés. Donc, transparent suivant, s'il vous plaît. Le taux de satisfaction de nos clients. Nous avons des questionnaires que nous envoyons pour savoir si nos clients sont, je crois que c'est avec Ubiquiti qui nous aide à faire cela. Ça représente un petit peu en 2013 le taux de satisfaction de la clientèle. Nous allons le faire pour 2014 et publier les résultats d'ici peu. Nous regardons de près les résultats. Nous avons un responsable de l'amélioration continue pour identifier des domaines dans lesquels nous pouvons faire mieux pour vous tous. Alors, on a déjà montré ce transparent avec le calendrier et le temps pour de gestion, des changements à la racine. Et chaque mois, nous vous montrons le temps que cela nous prend en jours pour effectuer des modifications. Donc ça, c'est quelque chose qui est mal compris parfois par rapport avec ce que l'on fait et ce que l'on fait pas. Donc on l'a mis directement sur l'écran avec ce que l'on fait en vert et ce que l'on ne fait pas en rouge. Soyons clairs, nous créons des registres basés sur les politiques provenant de la communauté et des différentes entités de la communauté. Nous gérons les registres existants, nous attribuons des ressources en nombre et en chiffres et nous publions tous les registres pour l'utilisation du public sans faire payer quelques frais que ce soit dans tous ces domaines de la zone racine. Ce que nous ne faisons pas au département Yana, nous ne créons pas, nous n'interprétons pas les politiques. Nous sommes là uniquement au niveau opérationnel pour la mise en œuvre. Donc c'est peut-être moins intéressant que vous pensiez. Et nous déterminons ce que peut être un nom de domaine. Cela est fait par de nombreuses organisations. Nous ne déterminons pas ce que peut être un nom de domaine et nous ne choisissons pas les responsables TLD. Je crois que cela est assez clair. On ne choisit pas qui gère les TLD. Transparent suivant. En résumé et en conclusion, le département IANA gère les registres de ces différents systèmes qui permettent à l'Internet de bien fonctionner et d'être interopérationnel. On a beaucoup parlé de noms de domaine aujourd'hui. On a eu peu de questions sur les paramètres, par exemple. Mais nous gérons donc ces registres avec les paramètres de protocole. C'est simplement les développeurs qui sont au courant de cela, les personnes qui font de l'équipement, qui vendent des équipements, de matériel et ainsi de suite. J'aimerais donc vous remercier de votre attention, de nous avoir écoutés. J'aimerais remercier tout le département de l'IANA. Levez la main, s'il vous plaît, pour que nous vous connaissions. Vous pouvez aller leur poser des questions dans les couloirs. Ils se feront un plaisir que de vous répondre. Nous sommes ici dans la salle. Nous avons des informations sur le site web de l'IANA. Vous avez tout cela à l'écran et nous sommes à votre disposition en cas de questions. J'aimerais vous remercier de votre attention. Merci d'être venu à Los Angeles à cette réunion de l'ICANN. Je vous remercie.
Okay, we're going to ask everybody to clear the room as we have another session starting here momentarily.
Is it working?
Hi.
Make an announcement now.
Just so everybody knows, this is the press conference that's about to start in a few minutes or so. So please take a seat somewhere around the table, and it should be starting shortly. Again, this is the press conference starting in about 5 or 10 minutes, so please take a seat when you get a chance, starting shortly. Thank you.
Keep going?
Yeah.
All right. Just piss off you all.
Again, this is the press conference that will be starting shortly with Fadi Shahade, Steve Crocker, Akram Atala, and Chris Mondini. So if you're here for the press conference, please do take a seat, and we should be starting shortly. Thank you.